Bref, un moutard qui tenait ses 18 000 livres de rente à la disposition des premières actions venues, dit Couture. Ce diable de Couture a tellement l'habitude d'anticiper les dividendes qu'il anticipe le dénouement de mon histoire. Où en étais-je? Au retour de Beaudenord, quand il fut installé quai Malaquais, il arriva que 1 000 francs au-dessus de ses besoins furent insuffisants pour sa part de loge aux Italiens et à l'opéra. Quand il perdait 25 ou 30 louis au jeu dans un pari, naturellement il payait, puis il les dépensait en cas de gain. Ce qui nous arriverait si nous étions assez bêtes pour nous laisser prendre à parier. Beaudenord, gêné dans ses 18 000 livres de rente, sentit la nécessité de créer ce que nous appelons aujourd'hui le fonds de roulement. Il tenait beaucoup à ne pas s'enfoncer lui-même. Il alla consulter son tuteur. « Mon cher enfant, lui dit d'Aiglemont, les rentes arrivent au père. Vends tes rentes, j'ai vendu les miennes et celles de ma femme. Nucingen a tous mes capitaux et m'en donne 6%. Fais comme moi, tu auras 1% de plus, et ce 1% te permettra d'être tout à fait à ton aise. » En 3 jours, notre Godefroy fut à son aise. Ses revenus étant dans un équilibre parfait avec son superflu, son bonheur matériel fut complet. S'il était possible d'interroger tous les jeunes gens de Paris d'un seul regard, comme il paraît que la chose se fera lors du jugement dernier pour les milliards de générations qui auront pataugé sur tous les globes, en gardes nationaux ou en sauvages, et de leur demander si le bonheur d'un jeune homme de 26 ans ne consiste pas à pouvoir sortir à cheval, en tilbury, ou en cabriolet avec un tigre gros comme le poing, frais et rose comme Toby, Joby, Paddy, à avoir le soir pour 12 francs un coupé de louage très convenable, à se montrer élégamment tenu suivant les lois vestimentales qui régissent 8 heures, midi, 4 heures et le soir, à être bien reçu dans toutes les ambassades, et y recueillir les fleurs éphémères d'amitiés cosmopolites et superficielles, à être d'une beauté supportable, et à bien porter son nom, son habit et sa tête, à loger dans un charmant petit entresol arrangé comme je vous ai dit que l'était l'entresol du quai Malaquais, à pouvoir inviter des amis à vous accompagner au rocher de Cancale, sans avoir interrogé préalablement son gousset, et n'être arrêté dans aucun de ces mouvements raisonnables par ce mot « ah, et de l'argent ?» à pouvoir renouveler les bouffettes roses qui embellissent les oreilles de ces 3 chevaux pur sang, et à avoir toujours une coiffe neuve à son chapeau. Tous, nous-mêmes, gens supérieurs, tous répondraient que ce bonheur est incomplet, que c'est la Madeleine sans autel, qu'il faut aimer et être aimé, ou aimer sans être aimé, ou être aimé sans aimer, ou pouvoir aimer à tort et à travers. Arrivons au bonheur moral. Quand en janvier 1823, il se trouva bien assis dans ses jouissances, après avoir pris pied et langue dans les différentes sociétés parisiennes où il lui plut d'aller, il sentit la nécessité de se mettre à l'abri d'une ombrelle, d'avoir à se plaindre d'une femme comme il faut, de ne pas mâchonner la queue d'une rose achetée 10 sous à Madame Prévost, à l'instar des petits jeunes gens qui gloussent dans les corridors de l'opéra comme des poulets en épinette. Enfin, il résolut de rapporter ses sentiments, ses idées, ses affections à une femme. Une femme. La femme. Ah ! Il conçut d'abord la pensée saugrenue d'avoir une passion malheureuse. Il tourna pendant quelque temps autour de sa belle cousine, Madame d'Aiglemont, sans s'apercevoir qu'un diplomate avait déjà dansé la valse de Faust avec elle. L'année 25 se passa en essais, en recherches, en coquetteries inutiles. L'objet aimant demandé ne se trouva pas. Les passions sont extrêmement rares. Dans cette époque, il s'est élevé tout autant de barricades dans les mœurs que dans les rues. En vérité, mes frères, je vous le dis, l'improper nous gagne. Comme on nous fait le reproche d'aller sur les brisées des peintres en portrait, des commissaires priseurs et des marchandes de mode, je ne vous ferai pas subir la description de la personne en laquelle Godefroy reconnut sa femelle. Âge 19 ans, taille 1 m 50 cm, cheveux blonds, sourcils idem, yeux bleus, front moyen, nez courbé, bouche petite, menton court et relevé, visage ovale, signe particulier néant. Tel le passeport de l'objet aimé. Ne soyez pas plus difficile que la police, que messieurs les maires de toutes les villes et communes de France, que les gendarmes et autres autorités constituées. D'ailleurs, c'est le bloc de la Vénus de Médicis. Parole d'honneur. La première fois que Godefroy alla chez madame de Nucingen, qu'il avait invitée à l'un de ses bals par lesquels elle acquit à bon compte une certaine réputation, il y aperçut dans un quadrille la personne à aimer et fut émerveillé par cette taille d'1 m 50 cm. Ses cheveux blonds ruisselaient en cascade bouillonnante sur une petite tête ingénue et fraîche comme celle d'une naïade qui aurait mis le nez à la fenêtre cristalline de sa source pour voir les fleurs du printemps. Ceci est notre nouveau style des phrases qui filent comme notre macaroni tout à l'heure. L'idem des sourcils, n'en déplaise à la préfecture de police, aurait pu demander 6 vers à l'aimable Parny. Ce poète badin les eut fort agréablement comparés à l'arc de Cupidon en faisant observer que le trait était au-dessous, mais un trait sans force et pointé, car il y règne encore aujourd'hui la moutonne douceur que les devants de cheminée attribuent à madame de Lavallière au moment où elle signe sa tendresse par devant Dieu, faute d'avoir pu la signer par devant notaire. Vous connaissez l'effet des cheveux blonds et des yeux bleus, combinés avec une danse molle, voluptueuse et décente? Une jeune personne ne vous frappe pas alors audacieusement au cœur, comme ces brunes qui, par leur regard, ont l'air de vous dire, en mendiant espagnol, « La bourse ou la vie? 5 francs ou je te méprise !» Ces beautés insolentes, et quelque peu dangereuses, peuvent plaire à beaucoup d'hommes, mais, selon moi, la blonde, qui a le bonheur de paraître excessivement tendre et complaisante, sans perdre ses droits de remontrance, de taquinage, de discours immodérés, de jalousie à faux et tout ce qui rend la femme adorable, sera toujours plus sûre de se marier que la brune ardente. Le bois est cher. Isaure, blanche comme une Alsacienne, elle avait vu le jour à Strasbourg et parlait l'allemand avec un petit accent français fort agréable, dansait à merveille. Ses pieds, que l'employé de la police n'avait pas mentionnés et qui, cependant, pouvaient trouver leur place sous la rubrique « signes particuliers », étaient remarquables par leur petitesse, par ce jeu particulier que les vieux maîtres ont nommé « flic-flac » et comparable au débit agréable de Mademoiselle Mars, car toutes les muses sont sœurs. Le danseur et le poète ont également les pieds sur terre. Les pieds d'Isaure conversaient avec une netteté, une précision, une légèreté, une rapidité de très bon augure pour les choses du cœur. Elle a du flic-flac, était le suprême éloge de Marcel, le seul maître de danse qui ait mérité le nom de grand. On a dit le grand Marcel comme le grand Frédéric, et du temps de Frédéric. A-t-il composé des ballets ? Demanda Finot. Oui, quelque chose comme les 4 éléments, l'Europe galante. Quel temps, dit Finot, que le temps où les grands seigneurs habillaient les danseuses. Improper, reprit Bissou. Isaure ne s'élevait pas sur ses pointes, elle restait terre à terre, se balançait sans secousse, ni plus ni moins voluptueusement que doit se balancer une jeune personne. Marcel disait avec une profonde philosophie que chaque état avait sa danse. Une femme mariée devait danser autrement qu'une jeune personne, un robin autrement qu'un financier, et un militaire autrement qu'un page. Il allait même jusqu'à prétendre qu'un fantassin devait danser autrement qu'un cavalier, et de là il partait pour analyser toute la société. toutes ces belles nuances sont bien loin de nous.